Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. Merci de votre fidélité, merci à vous tous qui venez de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. L'université officielle de Mbujimayi lance un front académique de solidarité avec les enseignants et étudiants de l'université de Goma. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Monsieur l'abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongo, recteur de l'UOM. Monsieur l'abbé Tshibaka, bonjour.
Bonjour, Jodine Kachama.
Bienvenue dans cette émission. Des questions et préoccupations, le standard est ouvert. Composez le 086-341-2871. 086-341-2871. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Patrick Yassongwa, Esther Mamboté, John Tshibwabwa, David Moussangou, Jody Daniel au micro, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien. À l'occasion de la commémoration du Génocoste, l'université officielle de Mbujimayi lance deux projets de solidarité en faveur des enseignants et étudiants de l'université de Goma, relocalisés à la suite de l'occupation de la ville par les rebelles. Le premier projet consiste à prendre en charge les études de 3000 étudiants déplacés afin de garantir la continuité de leur cursus de formation au sein des universités officielles dans l'espace sous contrôle du gouvernement. Le deuxième projet concerne l'accueil et l'intégration des 48 professeurs déplacés de l'UNIGOM au sein de l'université officielle de Mbujimayi. Par ailleurs, avec ses homes et résidences pour professeurs, l'UOM offre sa disponibilité pour accueillir une partie des étudiants et des professeurs relocalisés. Sur le plan pratique, comment le comité de gestion de l'université officielle de Mbujimayi compte matérialiser ce front académique de solidarité avec l'université et les étudiants de Goma face à la tentative d'usurpation de gouvernance par la coalition AFC-M23 dans les établissements d'enseignement supérieur à l'est du pays. Monsieur l'abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongo, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Qu'est-ce que vous a inspiré pour lancer ce front de solidarité avec les enseignants et étudiants de l'université de Goma?
Bon, l'amour du Congo, donc il n'y a pas d'autre choix. Mm-hmm. Mais cet amour qui est interpellé, si je puis dire, parce que personnellement, au niveau de l'Église, au niveau d'un grand séminaire où j'ai travaillé, nous avions vécu pendant la crise de Kamuina Nsapu Kasai. Notre séminaire avait été attaqué, saccagé par les éléments de Kamuina Nsapu. Mm-hmm. Pour sa réouverture, les gens du Kivu s'étaient mobilisés à travers l'Église catholique et ils nous avaient envoyé de l'argent. Et donc des gens qui sont soumis à une guerre atroce depuis bientôt
plus de
30 ans. Mmh. Et quand nous avons connu cette crise-là, l'Église catholique du Nord et du Sud Kivu avait marqué sa solidarité en organisant une collecte de fonds dans l'ensemble des paroisses. Et c'était la contribution la plus consistante au Congo que nous avions reçue pour pouvoir réouvrir les
portes. Reconstruire.
Oui. Donc là, j'ai toujours senti comme une dette morale des gens qui sont dans une situation de guerre et qui, face à la souffrance qui avait frappé le Kasaï, ont réagi positivement. Mmh. Alors, depuis que je suis recteur, je pense que notre première campagne à l'occasion du 8 mars, il y a 2024, ça a été une campagne justement un peu comme en réponse pour dire ils nous ont aidés
malgré leur situation difficile.
Alors nous ne pouvons pas être indifférents. Donc notre université l'a fait en 2024, donc à l'occasion de la journée internationale de la femme, on avait disons cotisé avec les étudiants. Je crois qu'on avait atteint autour de 14-15 000 $. Pour exprimer notre proximité. Et là, cette situation continue et elle a une dimension académique, universitaire, scolaire, pour laquelle nous devons être très conscients et assumer nos responsabilités. Mmh. Et ce n'est pas une initiative, dirais-je, qui est tombée du ciel comme ça. Non, elle répond à des orientations de notre ministre des tutelles, la professeure Marie-Thérèse Sombo. Tous, on connaît la situation. Déjà en 2011, elle avait invité les universités congolaises à faciliter la réinscription des étudiants relocalisés de Goma, de Bukavu et de Beni.
Qui sont éparpillés un peu partout.
A donc facilité cela. Et puis, il n'y a pas longtemps, donc le 4 juin, face à des actes anarchiques, de dénomination des autorités académiques non reconnues, non légitimes. Elle avait écrit une circulaire dans laquelle elle affirmait notamment la non reconnaissance de ces actes-là, de dénomination, le droit de sanction du ministère à l'égard de ceux qui se soumettraient à cela, des mesures disciplinaires et d'autres mesures, tout ça. Alors, il faut donner à ce texte-là une vie concrète, c'est comme ça que nous avons pensé, en travaillant avec les collègues de Goma, à un front académique, parce que cette agression, cette guerre a aussi cette dimension-là. Le capital humain, qui est dans des zones affectées par la guerre, est un capital qui ne profite pas, qui n'a pas la paix nécessaire pour étudier, pour mener la recherche, pour le développement harmonieux des universités, mais aussi de tout le système scolaire, de tous les systèmes d'enseignement. Alors on s'est dit, au lieu de toujours nous plaindre, au lieu de toujours dire, écoutez, ça ne va pas, nos frères, qu'est-ce que nous pouvons faire dans ces circonstances? C'est comme ça que en étroite collaboration avec les recteurs du comité légitime de l'université
de Goma,
et son comité de gestion et leurs collaborateurs, nous avons discuté ensemble et on a formulé deux projets que l'on voudrait soumettre à l'appréciation de tout le monde, des autorités, de la société, des hommes de bonne volonté, pour que nous sachant que la guerre, c'est pas seulement une guerre, écoutez, des armes qui crépitent, mais c'est aussi une guerre des universités violentées dans leur fonctionnement, des écoles violentées dans leur fonctionnement, et donc une guerre qui a un coût intellectuel, un coût culturel très très élevé.
Bien, alors en quoi consistent ces deux projets?
Alors le premier projet consiste à organiser l'accueil de plus ou moins 3000 étudiants de Goma, de Beni, de
Bukavu,
qui sont affectés par cette situation et qui ne peuvent pas poursuivre les cursus normal de leur formation. Les accueillir où? Les accueillir dans les universités publiques, des zones libres, des zones sur lesquelles l'État
sous contrôle
de l'État.
De l'État, oui.
Et nous pensons que nous avons fait fait des études ensemble, on a fait des calculs avec les collègues de Goma et on a pu estimer qu'avec environ 1 300 $ de manière arrondie par étudiant, nous pouvons plus ou moins organiser l'accueil de 3 000 étudiants.
C'est une sorte de bourse.
C'est une sorte de bourse.
Oui.
Mais au-delà de la bourse, c'est une participation, si je peux dire, académique à cette guerre, n'est-ce pas, d'agression. Et aussi un espace où nous pouvons construire la conscience nationale, où nous pouvons construire l'unité de notre pays. Alors, donc, le projet a été bien conçu, bien ficelé avec les collègues, et l'idée que nous avons, c'est mobiliser tout le monde pour qu'ensemble on puisse réunir cette somme-là. Par exemple, si on veut, avec plus ou moins 1 300
par étudiant
par an, avec l'espoir que le plus tôt possible la situation se normalise, nous pouvons permettre à 3 000 jeunes qui, dans la situation actuelle, peuvent désespérer. Et
peut-être qui n'étudient plus, qui se retrouvent en Ouganda, à Kinshasa ou ailleurs.
Oui, et qui peuvent, qui deviennent de proie facile, qui peuvent être récupérés par les ennemis de la République et devenir eux-mêmes ennemis de la République. Donc c'est comme ça qu'on a pensé cela. Donc là, c'est le premier projet. Donc globalement, autour de 3 700 000 $. Je pense que c'est de l'argent qui est mobilisable. Peut-être que dans notre culture congolaise, il faut qu'on puisse parvenir à cela, savoir se mobiliser gratuitement autour des causes qui sont importantes pour l'avenir de notre pays. Donc on ne peut pas seulement se plaindre et dire qu'on est en guerre et regarder peut-être seulement les présidents de la République, les ministres qui sont là, c'est leur guerre ou les hommes politiques. Non, nous tous nous pouvons nous mobiliser, c'est notre guerre et nous pouvons l'assumer de différentes manières. Donc on peut l'assumer du point de vue académique en disant, écoutez, il y a des jeunes qui sont en train de rater leur formation. Qu'est-ce que nous faisons, maintenant que nous le savons, qu'est-ce que nous faisons pour qu'ils ne ratent pas leur formation, leurs études. Donc là, c'est le premier projet. Alors, le deuxième projet concerne une certaine solidarité avec 3 catégories de personnes. Les membres du comité de gestion légitime qui ne peuvent pas, dans les circonstances actuelles, exercer leur mission dans les faits, mais il n'y a que leurs actes à eux qui sont reconnus par l'État congolais. Et donc, comment donner à ces personnes-là, dispersées elles aussi, un cadre de travail qui peut être un bureau de liaison à Kinshasa ou à Mbujimayi, pour que ce comité de gestion continue à travailler à travers ces étudiants qu'on peut recruter et récupérer. Il y a aussi les professeurs d'université. Et il y en a donc qui sont délocalisés. Et donc, qui peut-être continuent encore à être pris en charge par l'État congolais, mais qui ne peuvent pas exercer leur métier.
Alors, tout à fait.
Par exemple, de manière égoïste, mon université est intéressée à ce que, en attendant que ces gens, que ces compatriotes-là, ces professeurs-là, retournent chez eux travailler dans la paix, qu'ils trouvent un espace où ils peuvent être accueillis. Par exemple, notre université, avec environ 10 000 étudiants, nous n'avons que 58 professeurs propres. Et là, l'université de Goma, par exemple, a 120 professeurs, et ces 120 professeurs, tout le monde n'a pas les conditions de sécurité normales pour travailler dans la paix. Alors, cette partie-là des professeurs qui peuvent être utiles et qui peuvent venir renforcer momentanément notre équipe de travail. Mais il y a aussi 2 universités de Goma, par exemple, pour ne parler que de celle-là, mais il y a d'autres, Beni ou autres. L'université de Goma, par exemple, a 250 doctorants. Alors, tous ces doctorants, il y en a qui sont affectés justement dans leur carrière, dans leurs études. Il y a donc moyen d'organiser une espèce de solidarité avec tous ces gens-là. Et là, ça demande de l'argent. Grosso modo, on a fait les calculs avec les collègues de Goma. Il nous faut à peu près 700 000 $. Donc, avec 4 500 000 $, il est possible de donner vie à ce projet. Mais là, ça demande la mobilisation pas seulement de l'État qui est déjà très sollicité par cette guerre qui dure depuis longtemps, mais de nous tous.
Personnes de bonne volonté.
Donc si vous, vous dites ici, Kinshasa, on dit 20 millions d'habitants, donc les Kinois, eux seuls, peuvent, si chaque Kinois donnait 100 dollars, disons 1 dollar, il y a moyen de répondre. Mais si une partie des Kinois seulement donnait, le Congo dit nous sommes 100 millions, donc avec 4% des Congolais peuvent résoudre ce problème-là. Et donc voilà un peu le projet tel qu'il se présente et tel que nous le soumettons à l'appréciation de...
Bien, on va accueillir Monsieur Honoré Tshibwabwa depuis Mbujimayi et Mina Mwanda nous appelle de Kalemie. Monsieur Tshibwabwa, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur B.
Oui, quelle est votre préoccupation Monsieur Tshibwabwa?
Oui, je salue aussi Monsieur Labert était, mais avant les préoccupations, moi, avant tout saluer quand même les initiatives qui vont dans le sens de soutenir ceux qui sont dans une faiblesse d'une manière ou d'une autre. Ma préoccupation est la suivante. C'est quoi en fait la motivation du projet? La deuxième motivation, quelle est la politique? Parce que le MSB a parlé de 3 700 000 dollars. Quelle est la politique de financement qu'ils ont envisagée? La troisième question, est-ce qu'ils ont d'abord recueilli les avis des étudiants concernés? Les étudiants concernés, est-ce qu'ils ont donné aussi leur avis par rapport à ces deux projets ou bien c'est seulement les ministères ou bien eux-mêmes, ils ont, n'est-ce pas, pris l'initiative? Et puis, la quatrième préoccupation, est-ce que cette initiative, cette façon de dire, est-ce que cela ne remet pas en cause la légitimité, n'est-ce pas, des diplômes de ceux qui vont rester là-bas et qui ne vont pas accepter de venir, d'aller étudier ailleurs dans le cadre de ces projets, parce que je ne crois pas que tout le monde va accepter, tout le monde va venir. Et puis la cinquième préoccupation, monsieur Jody, pour terminer, monsieur Labbé parle des membres des comités légitimes. C'est là où je ne comprends pas. Est-ce que c'est pour dire que dans ces universités-là, actuellement, il y a un comité légitime ou un comité non légitime ou comment?
D'accord, merci, merci M. Tshibwabwa. Emina Mwanda, vous êtes à Kalemie. Bonjour.
Bonjour M. Jody, bonjour à l'invité et ainsi qu'à toute l'équipe qui vous accompagne. Je commence par des questions avant de donner peut-être ma petite contribution. La première question de savoir, existe-t-il déjà une liste officielle d'identification des étudiants bénéficiaires afin d'éviter les doublons, les exclusions ou les détournements de cette assistance? La deuxième question, comment l'université officielle de Mbujimayi attend-elle collaborer avec le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire pour assurer la reconnaissance officielle de ces mesures? Et troisième question, face à la tentative de prise de contrôle ou de réorganisation des établissements universitaires dans des zones occupées, quelles réponses académiques et institutionnelles et l'université officielle de Mbujimayi attend-elle apporter? Parce que je sais très bien que l'initiative est très bonne, mais nous ne pouvons pas aussi oublier certains aspects d'ordre institutionnel. Sachant que la compétence est d'attribution, est-ce que ce que l'université officielle de Mbujimayi fait actuellement ne peut pas rentrer dans une sorte d'usurpation des fonctions? Parce que dans quel est le titre que ces étudiants qui, d'une manière ou d'une autre, pouvaient poursuivre leurs études universitaires dans l'université officielle de Mbujimayi qui venait de l'université de Goma, pouvaient brandir, peut-être par exemple les finalistes et ainsi de suite. Parce qu'au-delà du symbole, au-delà du symbole, cette initiative pose toutefois une question essentielle: comment transformer cette solidarité en mécanisme concret, durable et accessible aux milliers d'étudiants et aux enseignants concernés? La prise en charge annoncée de 3 000 étudiants ainsi que l'acquis des 48 professeurs déplacés nécessite des dispositions précises concernant les inscriptions, les équivalences les programmes d'études, les faits académiques et l'hébergement, ainsi de suite. Mais c'est jeudi, jeudi.
Bien, merci, monsieur éminent Mwanda. Monsieur l'abbé recteur, à vous. Alors, la parole.
Honoré, j'ai pas suivi la première préoccupation.
Il a parlé de la motivation derrière ce projet.
Oui, je pense qu'on y a répondu. La motivation derrière ce projet, c'est notre pays. Et donc, face aux problèmes qui se posent...
L'amour de la patrie.
Oui, l'amour de la patrie. Donc là, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, quel mécanisme de financement? Je dois dire que c'est des projets d'abord qui sont soumis à l'appréciation de tout le monde. Donc, pour qu'ensemble, on puisse trouver comment le faire pour résoudre cela. Comme je l'ai dit, il y a deux documents majeurs de notre ministre des tutelles. Le premier document c'est date du 11 avril 2025, c'est sa circulaire numéro 13, par laquelle elle demande au chef d'établissement, au président des conseils d'administration et autres, n'est-ce pas, de faciliter la réinscription des étudiants relocalisés de Goma, Bukavu et Beni. Donc c'est pas une situation fictive, c'est une situation réelle qui existe. Et il y a déjà une instruction, une circulaire de la part de notre ministre des tutelles. Et dans ces circonstances, avis des étudiants concernés, effectivement, comme je l'ai dit, ce n'est pas des projets proposés depuis Mbujimayi de manière isolée. Non, c'est des projets travaillés avec ceux de Goma. Donc, ensemble, c'est pour répondre à des besoins réels qui sont là sur terrain. Après des échanges, on a pu donc élaborer ce projet pour dire, il y a telle situation qui se présente réellement. Qu'est-ce qu'on fait réellement? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour pouvoir la résoudre? Et là, donc, avis, oui. Donc, c'est vraiment des projets élaborés en pleine collaboration avec les protagonistes, avec les bénéficiaires. Alors, quelle légitimité des diplômes ou ceci, cela? Donc, qu'on sache bien, qu'on relise très bien, n'est-ce pas, le communiqué numéro 8 de la ministre de l'Essurcie. Le premier point, c'est la non-reconnaissance. Aucun acte posé par les personnes n'ayant pas qualité conformément au texte régissant les secteurs ne sera reconnu. Et donc là, il y a un problème qu'il faut... ceux qui continuent à étudier là-bas, quel est leur sort dans ces circonstances-là? Et lorsque on a parlé justement, c'est pour rejoindre, il y a des comités illégitimes, mais effectivement, donc il y a des autorités nommées par le ministère des tutelles qui sont remplacées par des autorités
nommées par la rébellion.
Et donc ça pose un sérieux problème.
Donc les diplômes qui seront délivrés là-bas ne seront pas reconnus.
En fait, ces diplômes sont délivrés par Kinshasa. Et Kinshasa va oui ou non délivrer des diplômes sur des actes d'administration, de gestion posés par des autorités illégitimes. Donc
c'est déjà un problème.
Donc un tel front, s'il fonctionne bien, c'est une contribution justement. Donc, lorsque le fonctionnement de ces structures est délégitimé, si je peux ainsi dire, on permet à ce que les universités puissent fonctionner sans ces ingérences politiciennes qui, justement, perturbent le bon fonctionnement de ces... Jusqu'à présent, jusqu'il n'y a pas longtemps, malgré l'occupation, ces institutions ont fonctionné en bonne et due forme dans la mesure où on a respecté les autorités légitimes, les autorités nommées par le ministère des tutelles. Oui. Alors, lorsque ceux qui sont nommés ne le sont plus par le ministère des tutelles, les conséquences sont tout à fait claires. Alors, il faut peut-être qu'on laisse ces secteurs évoluer, par-delà les clivages politiques, par-delà les fronts, ces secteurs évoluer en dehors de toute ingérence. Et c'est ça en fait l'esprit, n'est-ce pas, des orientations, des décisions.
Donc la rébellion n'a pas qualité de nommer les gestionnaires des établissements d'enseignement supérieur.
Et dans bien d'autres
domaines.
Donc c'est ça, alors il faut gérer cette situation concrète et n'oublions pas qu'il y a des personnes qui, suite à cette situation, n'étudient pas. Alors là, c'est en collaboration avec les autorités de l'université de Goma et autres, donc, qu'on propose cela. Et quelle est la liste
Les étudiants qui sont intéressés, qui se trouvent peut-être à Lubumbashi, ils sont à Kinshasa, ils sont en Ouganda, tout ça, et qui veulent venir à Mbujimayi, comment
Pas seulement seulement, procédé. Non, pas seulement Mbujimayi. C'est-à-dire, la proposition, c'est qu'ils soient accueillis dans les universités publiques de l'espace contrôlé.
Mais l'université de Mbujimayi manifeste déjà la bonne volonté.
La bonne volonté, parce que nous avons la capacité, nous avons, avec nos nouvelles infrastructures, on a quand même une bonne capacité d'accueil. Nos hommes nous permettent d'accueillir 604 étudiants et étudiantes. Et donc, on peut dire, écoutez, sur les 3000, nous pouvons accueillir, par exemple, 100 étudiants hein, que nous pouvons accueillir chez nous. Mais maintenant, il faut mobiliser, comme je l'ai dit, des fonds hein, pour appuyer une bourse annuelle plus ou moins autour de 1 300 $, c'est-à-dire les
par frais étudiant.
De, oui, par étudiant, les frais académiques de Minerval, mais aussi les logements, la prise en charge pour ce qui est de la santé, la prise en charge pour ce qui est de la
restauration
hein, oui. de ses compatriotes qui sont dans une situation assez délicate. Donc c'est une proposition qui est faite. Donc ce sont deux projets soumis à l'autorité de la ministre des tutelles et que nous espérons avec les autorités légitimes de l'université de Goma défendre ensemble à la prochaine session du conseil d'administration des universités. Donc c'est un appel à la solidarité nationale.
Toute personne de bonne volonté peut mettre la main à la pâte,
peut mettre la main à la poche pour qu'ensemble on puisse aider ses compatriotes qui sont dans une situation difficile, afin que ceux qui ne peuvent pas travailler trouvent des espaces où ils peuvent travailler, ceux qui ne peuvent pas étudier trouvent des espaces dans leur pays où ils peuvent poursuivre leurs études. Et donc c'est une proposition, et justement un espace comme celui-ci permet qu'on puisse échanger ensemble.
Bien.
Y a-t-il invasion de compétences? Non, comme je l'ai dit, il y a deux textes de base, notamment la circulaire numéro 13 du 11 avril 2025 et le communiqué ministériel du 4 juin 2026.
Bien, on va accueillir Jeannot Louemboué depuis Kolwezi, Elvis Londola est à Kinshasa et Monsieur Robert Adjokou depuis l'Ituri. Jeannot Louemboué de Kolwezi, bonjour et quelle est votre question?
Merci Monsieur Jeudi, bonjour. Bonjour l'invité. C'est la cinquième fois que nous rencontrons à cette radio avec l'invité. J'aimerais aussi encourager d'abord. Allô?
On vous écoute.
Oui.
Oui, j'aimerais aussi encourager d'abord le cerveau derrière cette initiative. Je pense que le sien aussi est inclus. Droit à toutes mes félicitations. Ma question que je vais poser, elle va nous rentrer dans l'émission de la fois passée, sur les 12 points proposés par l'invité. Celui qui m'avait intéressé, c'était le 9e, où on prenait l'élitisation et décourager le surnombre. C'est dans quelque chose comme ça. Vu que c'est une situation d'urgence hein, qui se pose, nous devons compatir avec nos frères gomatraciens à qui nous adressons nos compassions et tout notre amour. Qu'allez-vous faire par rapport à ces points 9 qui étaient pleins de rigueur? Allez-vous accepter même ceux, entre guillemets, qui n'auront pas le niveau au nom de la compassion? Si oui, cela ne va pas heurter le cœur de ceux qui ayant été dans la même situation, avait ou aurait été refusé par cette université. Parce que, lisons le point 9 de ces 12 propositions, c'était un point qui était, comme je l'ai dit, plein de rigueur. Pas de trop d'étudiants, mais une petite quantité des élites. Vous preniez la qualité et non pas la quantité. Comment allez-vous vous comporter vis-à-vis de ce point, par rapport à cette nouvelle situation que vous proposez, pour ne pas...
Favoriser les uns
et heurter le cœur des autres. Comment allez-vous utiliser la sagesse, je sais que vous êtes un homme sage, pour pouvoir trouver une solution par rapport à ça? Merci beaucoup.
Bien, merci. Elvis Londola, vous êtes à Kin. Bonjour.
Bonjour aussi à notre invité. C'est très important et puis surtout les initiatives qui se font, ces derniers temps, sont des initiatives à saluer. Je ne sais pas si vous me suivez.
On vous écoute.
Ouais. Alors, je voulais parler un peu sur ce qu'il a dit, parce qu'il venait aussi de parler des diplômes et aussi des papiers certifiés qui sortent de là. Parce que je voulais un peu, peut-être, je ne sais pas si les diplômes aussi. Parce que nous avons vu la dernière fois, la fois dernière ici avec les examens d'État, il y avait des mâles qui sont passés à partir d'ici. Et les enfants aussi ont fait des examens d'État là-bas et les résultats sont sortis, les gens aussi ont réussi. Mais au preuve de contraire, c'est ce qu'il vient de dire, peut-être que les diplômes et les qualités ou les qualificatifs qui sortent de là n'ont pas de validité dans notre pays. Et aussi, je voulais aussi savoir sur ce qu'il a dit peut-être sur les... Parce qu'ils sont des autorités des faits. Ils ne sont pas des autorités légitimes, mais des autorités des faits. Est-ce que les simples faits qui sont là et les examens, par exemple les examens d'État qui passent par ici, les enfants font là-bas les examens, les résultats sortent. Est-ce que les papiers qui les enfants l'ont réussissent? Est-ce que c'est aussi valable? Et aussi, Dédé, je voulais savoir, parce qu'il parle de l'université de Lubumbashi, est-ce que cette initiative est
l'université de Mbujimayi.
De Mbujimayi, oui, de Mbujimayi. Est-ce que c'est réellement seulement de Mbujimayi? Imaginez la controverse, peut-être, que des Nord Kivu, Sud Kivu, vers Lubumbashi, vers Mbujimayi. Est-ce que c'est étendu? Peut-être que comme ici à Kinshasa, on peut d'abord des fois recruter ceux qui sont ici à Kinshasa, puis de passer à l'université de Kinshasa, ici à l'IPEN et d'autres. Ou est-ce qu'il ne sait pas... C'est pas dit simplement Mbujimayi seulement qui est considéré, ou c'est on peut dire que toutes les institutions publiques qui se trouvent peut-être à Bunia, à Lubumbashi, sont aussi signalées afin que chaque fois qu'ils y retrouveront les étudiants et qui sont de ces côtés, peuvent être récupérés et être recyclés directement. Mais le fait de quoi? Comment ils sauraient? Le problème encore est que je voulais poser comme dernière question. Comment ils sauront peut-être avoir l'effet? Quelqu'un va dire que non, il a quitté là, il était en G1, même avec le système MLD. Malgré que le système est tellement informatisé, c'est facile aussi de pouvoir retrouver toutes les données de la personne. Mais là-bas aussi, il y a des institutions aussi, peut-être il y a des directeurs, il y a des professeurs qui continuent aussi à enseigner. Alors là, ça que je ne comprends pas un peu quoi. Est-ce que ceux qui sont encore là, les étudiants qui étudient encore là, les diplômes qu'ils auront, est-ce qu'il y aura encore de la valeur à ceux qui sont encore ici? Voilà. Et là où je ne comprends pas, il peut aussi nous expliquer sur ce domaine.
Merci, monsieur Londola, depuis Kinshasa. Robert Adjokou, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Radio de la paix et de l'unité de cohésion nationale. Je vous assure, je suis en train de pleurer. Mes condoléances à tout le peuple congolais, toute notre compassion aux déplacés. Hommage au révérend Abbé, professeur recteur, soyez abondamment bénis, parce que cette initiative est noble et exaltante. À titre de contribution, je crois que notre pays ne manque rien. Nous avons beaucoup d'argent. J'encourage le révérend Abbé, professeur, à continuer la sensibilisation pour que le gouvernement puisse effectivement assister tous ces déplacés et comment intégrer aussi les professeurs. Pour votre information, il y a des églises qui s'en occupent aussi. En dehors de ça, dans le cadre de la moralisation, de la sensibilisation, si on peut aussi intéresser les autres chaînes de radio, de télévision, surtout RTNC, B1 et d'autres, surtout le soir, pour qu'on fasse large diffusion. Vraiment, cette émission a un caractère à la fois éducatif et aussi moral. C'est ici aussi l'occasion de dire à nos frères qui ont créé la rébellion là, hein, ils doivent savoir qu'ils répondront un jour de leurs actes devant l'histoire et devant le beau Dieu. Nous commettons beaucoup d'erreurs dans la vie. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire de créer des rébellions? Merci. Je vous beaucoup. Assure, si vous voyez la souffrance de ceux qui se sont déplacés, non, ça fait pitié. Même à Bounia ici, les déplacés de guerre, quand vous les voyez souffrir, non, c'est révoltant. Nous devons nous repentir. Vraiment, nous devons nous repentir. Quelquefois, quand nous jetons des hommages au gouvernement, au chef de l'État, c'est pour les pousser à faire plus.
Merci,
ce n'est pas
merci
la
beaucoup.
Campagne que nous
merci.
Faisons.
Merci, monsieur Robert. On a bien retenu votre préoccupation. Monsieur l'abbé Apollinaire.
Bon, écoutez, est-ce que je remercie notre ami Luembo pour les encouragements, mais cette proposition n'est pas n'est pas contre la mesure de la démassification et l'élitisation des universités.
Oui.
C'est-à-dire, ici, on procéderait en quelque sorte à une espèce d'inscription spéciale, et les inscriptions spéciales au Congo sont régies par des normes. Il n'est pas question d'accueillir les gens de manière arbitraire. Je dis, et donc, je suis concerné. Non, parce que, disons, le projet, peut-être, il va pas être facile de le présenter en quelques minutes d'émission. Non, le plan est bien fait, avec, par exemple, le recensement, l'identification et l'authentification numérique. Donc, il est prévu qu'on crée une plateforme numérique pour que les gens puissent s'enregistrer. Mais nous allons faire aussi une contre-vérification à partir d'abord des listes qui existent dans ces établissements et qui existent aussi au niveau du ministère. Mais il y a aussi les organisations étudiantines, les coordinations qui font que, en fait, dans une université, on finit toujours par se connaître, par certifier que telle personne est effectivement oui ou non étudiant. Parce que ça peut être aussi une porte ouverte pour que des faussaires ou même des ennemis de la République.
Oui, c'est ça, ils peuvent en profiter aussi.
Non. Oui. On a bien, le projet est bien réfléchi, et avec des mécanismes étape par étape, identification, vérification, n'est-ce pas, des négociations entre les différentes institutions. Et ça ne concerne pas seulement, comment dirais-je, l'université officielle. Non, j'ai dit, nous avons pris l'initiative en collaboration très étroite avec les autorités légitimes de l'université de Goma, mais c'est pour intéresser tout le monde, c'est pour intéresser toutes les universités congolaises de tous les espaces gérés par l'État congolais. Donc ça concerne Bujima, ça concerne Kisangani,
Lubumbashi,
ça concerne Kinshasa.
Oui.
Et donc c'est pas débarquer 3000 étudiants dans un seul établissement. Bon, c'est que nous, avec nos nouvelles infrastructures, ça va, il y a de l'espace pour cela. À Kananga, il y a l'UNICAN qui a une capacité d'accueil bien au-delà des infrastructures dont elle a été dotée. Donc, il peut être une université qui accueille. Donc, vous voyez, l'UNICAN a plus de capacité d'accueil du point de vue des infrastructures que l'université officielle de Mbujimayi. Mais sa population étudiantine, c'est environ le 1/8 de la population de l'université officielle de Mbujimayi. Donc là, il y a une solution d'accueil du point de vue des infrastructures. Tout comme chez nous, tout comme à Lubumbashi, où vous avez plusieurs universités, tout comme ici à Kinshasa. Donc, c'est un appel à la solidarité nationale, en fait, pour dire, écoutez, il y a telle situation qui se passe. Il n'y a pas que les étudiants. Il y a aussi des professeurs. Il y a des professeurs qui ne peuvent pas exercer.
Qui sont déplacés,
voilà. Qui ne peuvent pas exercer leur métier,
oui.
Qui ne peuvent pas rendre service à la nation. On peut, en attendant que la situation se normalise, que l'autorité de l'État soit rétablie un peu partout, pour que ceux-là trouvent un espace où ils peuvent exercer, et notamment dans l'accompagnement de... Alors, les instructions, c'est-à-dire l'autorité de tutelle, donc les diplômes au Congo sont délivrés par le ministère.
Le ministère.
Alors, la question, le ministère va-t-il délivrer des diplômes sollicités par une autorité académique illégitime? Donc, je pense que la réponse est claire. Et dans ce sens-là, la circulaire, tout comme le communiqué de la ministre, sont tout à fait clairs. Donc, et l'une des dispositions, c'est la protection du parcours académique. Donc, le gouvernement s'emploie à réglementer les secteurs de manière à permettre aux étudiants de poursuivre leur formation à l'abri de toute interférence politique, conformément aux exigences du secteur. Et donc, la situation de fait, elle est là, mais cette situation de fait peut respecter, il y a des domaines dans lesquels ce respect-là peut être quand même des rigueurs. Alors, comment vérifier? C'est effectivement, comme je l'ai dit, il y a tout un mécanisme d'activité, donc recensement, identification, authentification numérique, attribution de cartes d'étudiants avec un numéro, un code QR. Et comme on le sait, au niveau du ministère, il y a déjà une politique d'attribution d'un numéro d'identité unique par étudiant, qui est un numéro national unique et définitif par étudiant. Donc il y a donc des instruments qui existent déjà au niveau
du ministère pour vérifier tout ça.
Pour vérifier tout cela. Chaque année, nous déclarons des étudiants. au ministère avec des listes, et donc c'est sur cette base-là que cela peut être fait. Donc le plus important, c'est qu'on prenne quand même conscience de cette situation-là et qu'on voit les propositions qui sont faites à toutes les universités, mais qui sont faites aussi à l'ensemble de la nation, peuvent être assumées et aboutir à des gestes de solidarité, mais aussi des gestes d'unité nationale.
Bien, donc Monsieur Elvis qui nous dit, bon, il y a par exemple pour l'examen d'État, on a vu les élèves de Goma également ont participé à l'examen d'État,
oui.
Mais les diplômes ne vont pas venir de Goma, c'est de Kinshasa. Alors il voulait savoir aussi au niveau universitaire pourquoi ça peut pas se passer ainsi.
Non, jusqu'à présent, je pense que les instructions sont tout à fait claires, c'est-à-dire les autorités légitimes nommées par le ministère des tutelles, ça va, ce sont les seules habilités à poser des actes reconnus par ce ministère-là. Donc je pense que les choses sont tout à fait claires.
C'est clair, ouais. Oui. Alors les étudiants qui sont intéressés, qui sont éparpillés à travers le pays, qui sont intéressés par ce projet, ils doivent encore attendre ou bien ils peuvent déjà manifester?
Non, on n'a aucun pouvoir ici de décision. Donc comme je dis, c'est des projets soumis à l'autorité des tutelles, c'est des projets soumis à l'appréciation d'autres collègues pour dire voici ce que nous, à partir des orientations de notre ministre des tutelles, à partir des dispositions, des décisions que l'autorité a prises, voici notre proposition. Donc c'est, on peut dire ici qu'on est encore dans une phase d'échange, de maturation de la proposition pour que dans la mesure du possible, elle puisse aboutir et que la prochaine rentrée académique ne soit pas seulement pour ceux qui sont dans la zone contrôlée par l'État, mais que cette année marque pour ceux qui sont déplacés, pour ceux qui voient leur avenir comme étudiants tout à fait sombre, puissent voir une lueur d'espoir. Mais il n'y a pas que cette dimension-là. Je pense que nous tous nous l'avons vu lorsque le Congo a été au Mondial. On a vu comment nos compatriotes de l'Est ont célébré chaque victoire. Et on sait
malheureusement qu'il y en a
qui ont été tués à cause de cela. Et donc, le Congo est un. Le Congo constitue, il y a un tissu, si je peux dire, affectif très fort qui fait que...
La fibre patriotique.
Elle est là et que même la balkanisation elle ne réussit pas parce qu'il y a ce tissu-là. Il y a un tissu affectif très fort qui unit les Congolais. Il y a un tissu économique très fort. Il y a plusieurs tissus qui nous unissent qui sont plus forts que toutes les menaces des balkanisations ou des je ne sais quoi. Donc, ça ne réussit pas depuis 30 ans parce que nous aimons le Congo. Et les compatriotes de l'Est sont à cet égard des maîtres du patriotisme pour nous. Donc quand on a vu des jeunes gens se faire tuer parce qu'ils célèbrent la victoire
de l'équipe nationale,
ça doit nous interpeller, nous qui sommes de ce côté-ci. Et comme je vous le dis personnellement, donc après avoir été dans un séminaire qui avait été attaqué par les Kamuinas Sapu, et recevoir comme aide matérielle la plus consistante, n'est-ce pas, des églises du Kivu, ça ne vous laisse pas indifférent. Ça nous interpelle. Et donc, à nous de voir, écoutez, c'est pas 4 500 000 $, c'est pas un casse-tête, n'est-ce pas, pour notre pays.
C'est pour une année académique.
Pour une année académique. Avec ça, nous pouvons donc aider 3 000 étudiants. Et il y a toute une structure de gestion, de collecte de gestion, qui est mise, qui est conçue et qui, si elle a l'aval de l'autorité des tutelles pourrait fonctionner. D'ailleurs, l'année passée, notre ministère donc de l'enseignement supérieur de l'ESURSI a pu mobiliser des fonds d'appui à l'armée. cotisé par les étudiants. Et donc il faut des gestes comme ça, c'est au creuset de ces gestes-là qu'on construit la conscience nationale et que le Congo cesse d'être une idée vague et devient un espace, n'est-ce pas, d'engagement concret et surtout de solidarité à l'égard de ceux-là qui souffrent. Donc le dernier thème, n'est-ce pas, du Génocos, donc, et maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu fais? Donc maintenant que nous savons qu'il y a des jeunes qui veulent étudier mais qui ne le peuvent pas à cause de ces situations, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc pour donner une formation avec 1 300 $, on peut donc sauver l'année académique d'un étudiant multiplié par 3 000. Avec environ 700 000 $, on peut aider des professeurs qui ne peuvent pas exercer leur fonction, leur métier. On peut aider des doctorants qui sont bloqués dans la préparation de leurs études, de leur thèse, n'est-ce pas, à pouvoir avancer. C'est un capital humain que nous ne devons pas laisser pourrir à cause de ces situations de guerre et d'insécurité.
Blaise Saïd, il nous a écrit depuis Kisangani. À mon avis, il dit ceci, à mon avis, cette initiative mérite d'être soutenue, car aucun étudiant ne devrait voir son avenir sacrifié à cause des difficultés qui traversent son milieu. La solidarité académique doit surtout se traduire par des actions concrètes afin de permettre aux étudiants de Goma de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions. Au-delà de la solidarité morale, quel soutien matériel et académique peuvent être apportés aux étudiants de Goma? Comment garantir la continuité des études universitaires malgré les difficultés que connaît Goma? Qu'est-ce que vous pouvez dire à M. Saïdi?
Bon, je pense que son raisonnement rejoint cette initiative. Nous devons être conscients que le capital humain est fondamental. C'est la première ressource d'un pays, c'est le capital humain. Et la guerre que nous vivons depuis 30 ans, c'est une guerre dont peut-être nous mesurons les conséquences en termes de nombre de morts, c'est des millions de nos frères et sœurs, en termes de personnes mutilées, en termes de femmes violées, mais aussi il y a des enfants à qui on prive le droit d'être des enfants, il y a des jeunes à qui on vole leurs rêves, il y a des professionnels à qui manque l'espace d'épanouissement, de réalisation de soi. Et donc, il faut qu'on aille au-delà, n'est-ce pas, des jérémiades, au-delà des plaintes inutiles. Donc, on peut s'engager, et cela est possible. C'est pas de somme, je ne sais pas moi, extraordinaire. Donc, on peut, en se mobilisant, le public, le privé, le spirituel, le religieux, au lieu que tous, on pense que le seul front ici, c'est le front politique ou le front armé, il y a aussi le front académique qui va nous aider justement à contribuer à la formation du capital humain. Voilà, donc je partage son point de vue et j'espère vraiment que dans les jours qui viennent, on puisse aboutir à une décision officielle qui endosse cette initiative et donne de l'espoir aux victimes de cette guerre.
Voilà, mais comme il y a déjà le circulaire de la ministre, oui, est-ce que ce n'est pas une autorisation déjà de...
Non, c'est-à-dire les projets sont élaborés sur base de documents donc de la ministre des tutelles. Et nous espérons que cette proposition, je dis qui est appelée à être améliorée, qui est appelée à être corrigée, puisse bénéficier de sa bénédiction et que par conséquent, différentes universités puissent concrètement s'engager par rapport à cette situation de crise.
Alors, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, si, je ne sais pas si l'université de Goma et de Mbujima organisent les mêmes facultés?
Disons, pas seulement Goma et Mbujimayi, donc c'est l'ensemble du pays qui est concerné. C'est-à-dire, on peut dire, écoutez, nous pouvons accueillir 100 étudiants de Goma qui sont
dans les mêmes facultés,
que celles qui sont développées à Goma. Oui, voilà.
Voilà. Donc l'initiative maintenant, il revient à chaque université de de lancer sa propre initiative.
Non, il ne revient pas. Non, c'est nous tous ensemble. C'est-à-dire, comme je dis, nous aurons l'occasion à la prochaine session du conseil d'administration des universités de présenter cela et qu'ensemble on puisse bénéficier justement, comme j'ai dit, de la bénédiction du ministère de tutelle pour que ces propositions soient discutées et que ces propositions soient traduites en un véritable programme de solidarité nationale autour de ce front, donc des fronts académiques.
Bien. Et pour les doctorants, par exemple, comment ça va se passer? Ceux qui étaient déjà en pleine recherche.
Oui, la proposition qui est faite, c'est que bon, il y a des écoles doctorales ici qu'on attend donc ici à Kinshasa ou ailleurs. Donc il y a moyen de faire basculer ces gens-là qui appartenaient à un troisième cycle qui était organisé et qui ne peuvent pas dépasser d'être inscrits, d'être accueillis dans d'autres universités. Voilà un peu, c'est aborder tous ces problèmes. Qui existent, qu'il ne faut pas laisser pourrir, parce que ces jeunes, si je peux dire en errance, peuvent facilement se sentir abandonnés par les leurs. Oui. Et donc c'est dans cette situation que nous devons manifester notre solidarité, comme eux l'ont manifesté quand nous, on était aussi dans des situations difficiles.
Difficiles avec la guerre des Kamouina-Sapou.
C'est ça, oui.
Bien, nous parlons de lancement d'un front académique des solidarités avec les enseignants et étudiants de l'université de Goma. Vous avez dit, il n'y a pas que l'université de Goma, il y a aussi les étudiants de Bukavu, de Beni.
De Beni, oui. Donc toute cette zone-là qui est, comme j'ai dit, bon, c'est vrai, le projet, nous l'avons travaillé avec les autorités légitimes de l'université de Goma, mais c'est une idée partagée et qui peut s'étendre à d'autres universités de la zone.
Bien. Et maintenant, ceux qui sont intéressés peuvent déjà, est-ce qu'il y a des mécanismes, ils peuvent déjà vous contacter, comment ça va se passer? Ou ils doivent attendre que le projet soit défendu?
Oui, on va patienter que le projet soit défendu et on pourra alors communiquer les mécanismes de relation. Et ici, on va recourir notamment, n'est-ce pas, à des plateformes numériques qui vont nous permettre de pouvoir entrer en contact avec ceux qui sont dans les besoins et ceux qui se sentent concernés par l'initiative comme bénéficiaires, mais aussi comme protagonistes ou des personnes qui veulent contribuer justement à ce que cette initiative puisse réussir.
Bien, qui peuvent contribuer?
À commencer par moi-même, vous-même, tout Congolais qui le veut. Comme j'ai dit, c'est grosso modo 4 500 000 $. On a conçu des mécanismes de gestion qui, justement, pour éviter des détournements, donc des mécanismes de gestion, des mécanismes de contrôle, des mécanismes d'audit, on les a conçus.
Oui.
Et les budgets que nous avons élaborés est un budget, si je peux dire, minimaliste, où on va à l'essentiel, où il n'y a aucun luxe, il n'y a rien de demandé qui est exagéré. Et on va voir dans quelle mesure mobiliser les universités elles-mêmes pour qu'elles puissent contribuer, les églises, les organisations de la société civile, les entreprises, mais toucher aussi les structures de l'État, les différents acteurs politiques, pour qu'ensemble, on puisse sauver l'année académique pour ces professeurs, ces doctorants, ces étudiants qui, à cause de la situation de la guerre, ne sont pas en mesure de poursuivre leur travail dans de bonnes conditions.
Alors l'année académique, il reste combien de mois pour clôturer?
Elle a été clôturée
déjà clôturée.
De 8, mais nous lançons, c'est pour la nouvelle année académique 2026-2027, donc dans plus ou moins 2 mois que cette année va démarrer, et il va falloir qu'on agisse le plus vite que possible.
Monsieur l'abbé Apollinaire Tshibaka, recteur de l'université officielle de Mbujimayi, merci.
Merci beaucoup, merci.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.